Shalom, uvracha, uvesham Hashem, naase, venatzliach, en ce mardi 26 mars, le 16 du mois de Adar, Bet, Bezrat Hashem, et Barach, Vitalech, Molaad. Alors, un jour un peu spécial aujourd'hui, acheté par professeur Jacques Lévy, à Yakar, ici présent, avec un message aussi pour son papa. Il m'a proposé plusieurs thèmes, donc on va essayer de voir ensemble ce qu'il veut. Parce que je ne prépare pas de toute façon, donc on s'en fiche. Jour acheté par donc professeur Lévy, Jacques, à Yakar, pour l'élévation de l'âme de son merveilleux papa Naftali Ben Eliezer à Lévi. Alav Shalom, Ruach Hashem, Tenachenu Began Eden Elyon, Vechol HaShorvim Imo. Message donc de la part de son fils pour son papa, pour qu'on a de bonnes pensées aujourd'hui. Mes pensées en ce jour sont pour toi, auxquelles se joignent celles de toute ma famille. Tes midot, honnêteté, humilité, rigueur et confiance en Hashem, associées à une grande culture, ont caractérisé un judaïsme authentique. C'est un grand ton papa. De toute façon, on voit que le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. En toute franchise, c'est pas pour rien qu'on est amis. De là où tu te trouves, tu continues à veiller sur tous tes enfants et tes petits-enfants avec patience et complicité. Tu m'es fait rire et porter sur ton dos. Dis-moi, il était...
C'est un
il était parfait, le mec. Tu marques tunisien et il rentre dans la case 100%. Ah, ça me rappelle, tu sais quoi? Quand je lis ça, tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle l'ancienne époque, les années 80. Une époque où les gens étaient complètement normaux. C'est vraiment une très très belle, une belle lettre que tu écris ici. De là où tu te trouves, donc tu vas, sans la lue, je voudrais associer ton souvenir à tous nos chayalim qui combattent pour notre existence aux frontières d'Israël, à leur retour de leur famille, on parle des otages, pour la guérison aussi des blessés, le retour de tous les otages, comme tu le rapportes ici, que ton souvenir soit béni. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? On va la dire à la Tunisienne, Albe Shalom. Il te manque? Beaucoup. Tu sais, on dit souvent qu'il y a deux personnes qui ne seront jamais remplaçables, c'est papa et maman. Ils sont irremplaçables. On va dire aussi, Biarouch Abba, notre ami congolais. Qui parle congolais, donc français. Voilà. T'es où là-bas?
Là, je suis au Togo, je suis à Lomé.
T'es à Lomé au Togo? Et tu retournes quand?
Le 5 mai,
Be'ezrat Hashem. Le 5 mai, Be'ezrat Hashem. Tov, les Juifs sont partout, les mecs. C'est pas la peine d'essayer de nous exterminer. Il y en a même au Togo. Dans une hutte, comme ça. Shem v'rech otra, ishmor alecha, v'tarzor, Be'ezrat Hashem, achem tovim, shalom. Ok. Il y a aussi Naskara, avec ta permission, d'un tzadik, Meir, Emil, Boujna, Ben, Rachel. C'est sa Naskara aujourd'hui, Ruach Hashem, tenachenu, b'ganei, d'Elyon. Bien sûr, on pensera à toutes ces personnes qui n'ont pas qui dit Kaddish pour eux. Donc, Mama Shona, il y en a beaucoup malheureusement. Il y a des enterrements où il n'y a même pas un minyan. Comme je le dis et je le répète, attachez-vous à une communauté. C'est très important d'être attaché à une communauté. Quand on a des bar mitzvot, il y a du monde. Quand il y a des mariages, il y a du monde. Quand on part de ce monde, il y a du monde. On ne nous oublie pas. On est vraiment. Moi je dis toujours, il y a trois familles dans la vie. Il y a sa famille, il y a sa communauté et il y a son peuple. C'est ce qu'on appelle, dans la Torah, c'est marqué Mishpechot Adama, les familles de la terre. Il viendra un jour avec la Géoula, on sera une très très grande famille. Puisque toutes les nations du monde et Israël ne feront qu'un devant l'Éternel, puisque la connaissance de Dieu remplira le ciel et la terre. Bon, je pense qu'on a tout dit, une grande fois Shlema pour notre ami Asher Jami. On va lui montrer à Tzadik. Fois Shlema, Kol HaKavod pour ton fils, futur Baba Salé, si tu veux. Il m'a dit non, c'est trop petit, pardon. Alors, futur grand. alors là, pour professeur Lévy, il m'a envoyé 5 thèmes. J'en ai noté deux comme ça pour me rappeler que c'était un cours à thème. Je t'ai noté, alors, à qui appartient la morale? C'est très intéressant comme sujet à émettre. Et ouais, c'est ça que tu veux, je crois. À qui appartient la beauté? Alors, je vais te répondre pour les deux questions déjà à la base. À Dieu. Voilà, comme ça. Salut, au revoir. Tout appartient à Hachem. Alors, regarde, ce qu'on va faire, on va faire un cours sur un sujet, à mon avis, qui te parlera plus, c'est la morale. Parce qu'on a fait pas mal de cours sur la beauté. Mais j'aimerais juste te donner un chidouche aujourd'hui par rapport à ce que j'ai étudié hier soir sur la beauté. Mina Shamaïm, hein, je n'ai pas fait exprès. Hier soir, je me suis plongé dans une étude très intéressante sur le monde de la beauté. Parce que c'est vrai que d'un côté, quand on parle de la beauté, le roi Salomon a écrit dans Kohelet, Avalim, Sheva Pamim, Evel Avalim Amar Kohelet, tout est Evel Avalim. Alors dans ce cas-là, comment se fait-il que même si la Torah ne perd pas trop de temps à nous dire qui était beau ou pas beau. C'est vrai qu'à part Yosef HaTzadik, on ne voit pas qui était beau. Par contre, pour les Imaot HaKdoshot, c'est très bizarre qu'on lui dit qu'elle était Yefatoa Fatmar'e. Nachon, belle d'apparence d'intérieur et belle d'extérieur. Bizarrement, dans la Gemara, on nous rappelle à maintes reprises des gens qui étaient laids. Des gens qui étaient laids, comment se fait-il que tellement de Torah soit dans un corps aussi laid que le tien? Comme ça, elle dit un jour une princesse romaine, je crois Rabbi Yoshua, d'accord? Elle lui dit, comment tu peux avoir autant de Torah? Qu'est-ce que t'es chum? Qu'est-ce que t'es moche? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Vous vous rappelez sa réponse? Il lui a dit, quand tu mets du vin dans une cruche d'or, il tourne. Par contre, qu'est-ce qu'on prend? On prend d'afka du bois. D'accord? On prend un tonneau. Cheres, d'accord? Moi, j'étais ce matin avec un tonneau. Qu'on m'a offert une bouteille de vin avec le tonneau. J'étais là-dedans. Et lui dit, exactement, à l'époque, c'est vrai que c'était plutôt des cruches de cheres, c'est-à-dire de glaise. Ce qui coûte le moins cher. Ce qui est plus laid, d'ailleurs. Okay? Et on voit que des discussions ont lieu sur ce sujet-là. On voit Rabbi Eleazar ben Rajbi, il est sur son âne. Et puis, un pauvre qui vient lui demander de la tzedaka. Et il lui dit, mais qu'est-ce que t'es moche! C'est bizarre quand même. Je ne suis pas demandé si je suis beau ou pas beau. Je me demande, est-ce que tu peux m'aider financièrement? Il lui a dit, mais comment dire? Il lui a dit quelque chose d'ailleurs que beaucoup de gens utilisent comme des blagues, les enfants surtout. Va demander à l'artisan qui m'a créé. Alors, on va voir Dieu et va te plaindre chez lui. Il s'est rendu compte qu'il a commis une erreur. En l'été, ce moche était lui en avis. Il y a eu une notion de donner à Rabbi Eliezer ben Rajbi à cette époque. Peu importe. C'est très intéressant. Mais c'est bizarre qu'il dit t'es moche, t'es beau, t'es moche. On a vu que la matronita, quand elle a vu Yosef, pardon, deux secondes, laissez-moi juste y arriver. Rabbi Ishmael ben Elisha, Rabbi Ishmael, puisqu'il était beau, elle a demandé à ce qu'on lui dépeuse son visage tellement il ne fallait pas perdre cette beauté. On a vu Rabbi Akiva, très bizarre, dans le livre Torah de Kohanim, entre autres, qui ramène ça. Que quand la femme de Tornius Rufus, qui s'appelait Rufina, est venue le voir, il faut savoir que Rufina était extrêmement belle. Quand on dit extrêmement belle, il y a même des légendes qui disent qu'elle mettait les hommes les plus élogieux et les plus moraux de son époque à quatre pattes pour les humilier. C'est-à-dire pour sa beauté, ils étaient prêts à se mettre à quatre pattes, à sortir dehors comme des chiens, tellement elle voulait montrer la force de sa beauté. Quand elle a vu Tornius Rufus, qui était constamment battu devant le Beddin, devant l'empereur dans leurs arguments, elle a dit, tu veux que je te le rende cacahuète? Elle lui a dit, tu peux, ouais. Elle s'est habillée de façon très Betty Boop. Tarantin. Et hop, elle est partie le voir. Et Rabbi Akiva, il a eu trois réactions. La première, c'est qu'il a été triste. La deuxième, il a craché par terre. Et la troisième, il a rigolé. On pose la question, Bémet, pourquoi? On dit, la première, c'est qu'il a vu de quel Gilgoul elle était. C'était la réincarnation de Cosby Batsour, avec... le chef de la tribu de Shimon Cosby Batsour et Zibri Ben Salou. J'ai un problème avec les prénoms, vous le savez. Et donc il a dit quoi? Tu te réincarnes pour réparer ça, tu reviens faire la même bêtise, tu viens me remettre à l'épreuve. Et la deuxième chose, il a craché par terre. Il y en a qui disent qu'il a pleuré. La main au Bacha, Kodim Chazal, d'avoir Nifla, il a dit, je pleure parce qu'une telle beauté finira dans la bouche des vers. Une telle beauté finira dans la bouche des vers. Et ça lui a donné de la tristesse. C'est-à-dire que tu es un chef-d'œuvre humain, tu es un chef-d'œuvre de Dieu, tout est parfait chez toi. Tu es une femme. Comme il avait les yeux de Rabbi Akiva, donc il ne voit pas comme un homme verrait les choses, il voit l'œuvre d'Hachem. Marabouma Asecha Hachem Kulam Bechokma Sita. Ne commencez pas à l'utiliser dehors. Ouais, Marabouma Asecha Hachem. Ouh, Marabouma Asecha Hachem. Pas comme ça. Hein? C'est Rabbi, on parle de Rabbi Akiva, on ne parle pas de vous, là, éthicogique. D'accord? Et il s'est mis à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il a dit que les vers vont manger sa beauté. Bon, il y a beaucoup à dire sur ça. Mais moi, ce que je voulais te faire comme cadeau avant de commencer sur le Derech Eretz, c'est qu'en réalité, si on dit que Sarah était belle, que bon, avant, il y avait Ève qui était belle, et que Rachav était belle, Abigail était belle, Esther, Amalka, du haut de ses 70 ans, avait une beauté sans pareille, comment se fait-il qu'on nous dit qu'Akol et Valabalim? Si c'est le cas, pourquoi tu me dis que Abigail fait partie des femmes les plus belles du monde? On n'a rien à faire. En réalité, ce que j'ai étudié hier soir donne une réponse générale à tout ça. C'est que quand la Neshama sort du corps et qu'elle voit son corps aussi beau soit-il, au summum du summum de la beauté, de trait, de la perfection, la Neshama dit, qu'est-ce qu'il est laid mon corps? Quoi, c'est là-dedans que j'ai vécu. C'est-à-dire que c'est en comparaison avec la beauté de la Neshama que tout est laid sur terre. C'est pour ça qu'il y a marqué Sheker Achen ve'evel ayofi ishair atashem hi titalal. Qui est digne de louange? Qui a une vraie beauté? celle qui craint Dieu. Pourquoi? Parce que tout comme le corps a besoin d'être un tant soit peu maquillé pour s'enjoliver, la crainte du ciel d'une personne, c'est ce qui est le maquillage de la neshama qui la rend encore plus belle. C'est avec une neshama qui n'a pas de crainte du ciel, elle reste belle, mais fade, sans maquillage, comme une tronche d'une personne qui se lève le matin, sans maquillage, on a une tamante, hein, comme ça, pas très beau. Par contre, chaque fois qu'une personne, lo yecheta, c'est-à-dire quoi, lo yecheta, qui ne faute pas par crainte du ciel, qu'il sache que l'ange qui est à côté de lui, cette lumière qui est intense, qu'on ne voit pas, elle maquille, mamache, comme une maquilleuse, sa neshama qui devient encore plus belle. Quand tu vois la neshama face au corps, le corps a envie de vomir tellement, ce qu'on appelle d'ailleurs, dans le Zohar Kadosh, comment on appelle le corps? Comment le mot goufa? Comment on l'appelle? Chomer et achour. La moche, d'ailleurs, c'est marqué comme ça hier. Que les corps sont considérés comme étant très laid à côté de la neshama. C'est très laid, même si c'est la plus belle personne du monde. C'est laid. C'est pour cela que le monde est trompeur, comme on appelle ça dans le Zohar Kadosh, Alma des Shikra. Le monde du mensonge. Pourquoi? Tu vois des gens qui sont extrêmement beaux. Tu vois une femme, ouh, plus belle qu'elle, tu meurs. Tu connais? Ouais. Tu vois sa neshama, t'as envie de vomir. Et t'as des femmes, c'est sauvé Willy, la warik. Les boutons, le machin, le bidu, le chouette, il n'est pas bien dessiné. Tu vois, c'est Neshama, tu t'effondres par terre tellement elle est belle. Bah, Torah, on mérite là, nous. Yefa Torah, Yefa Tmaré. Pourquoi on nous donne cet exemple? Vas-y, Yefa Torah, c'est la Neshama. Fatmaré, Animaré, Mar'a, c'est ce que je vois extérieur. La Torah, elle vient te dire, pas que la fille, elle est belle ou elle n'est pas belle. Elle te dit, elle est aussi belle d'âme que de corps. Ça veut dire que sa beauté à elle laisse transparaître le niveau de Neshama intérieur. Ce qui fait que la plus belle de toutes les beautés, celle qui maquille la Neshama, c'est la Torah, les mitzvot, faites dans la crainte du ciel par amour pour Dieu. C'est le plus beau maquillage qu'on puisse trouver chez une personne. Et ça, c'était qui l'avait par excellence? Esther Amalka. Vous savez que j'ai lu pendant Pourim que Esther Amalka n'a jamais de toute sa vie regardé le visage d'un homme. Jamais. Elle ne sait même pas à quoi ressemblait Achashverosh. Physiquement, elle ne l'a jamais vu. Quand elle parlait, quand elle marchait, ses yeux étaient constamment vers le sol. « Me'olam lo ra'ata pene Adam. »« Me'olam lo. »« Me'olam lo. » Tellement est à Kedosha. Donc comment se fait-il qu'à 70 balais, elle était si belle que ça? « Chuchel hesed al panea. » Comme ça nous disent les Chacham. Alors c'est juste comme ça, une petite parenthèse, que Mina Shamaim, hier soir, j'ai étudié, et plus tu m'avais demandé un truc sur la beauté, à l'image de ton papa, Ezrat Hashem, dont la Neshama est extrêmement belle, physiquement, il avait ta tronche, je ne sais pas quand, oui. On va se plonger dans une question, à qui appartient le Derech Eretz? Alors, ce sujet-là est un sujet prenant, parce qu'il est empreint de dizaines de mahlokot. Mais mettre le Derech Eretz, c'est quelque chose qui est très souvent traduit par savoir-vivre, alors que pas du tout. Savoir-vivre, c'est la clipa de l'explication du Derech Eretz. On va voir ensemble quelques exemples, Ezrat Hashem, de la Gemara, de plusieurs Gemarot, sur cette grande question. Et on verra que Béhémet, le savoir-vivre, il n'est pas aussi simple que ça dans le judaïsme. Par exemple, tu demandes à qui il appartient. Ben, il appartient à chacun sa nation et chacun sa culture. Selon le Rambam, dans les sept lois noachides, l'une des règles principales du savoir-vivre doit être fixée par les hommes du pays. Ce qu'on appelle Chayavim Leakim Batedin. Dans les sept lois noachides, hormis le fait de ne pas tuer, pas ceci, pas cela, de ne pas faire d'idolâtrie, de ne pas manger verminacha, tout ce que tu veux, il y a une loi qui vient nous faire un clin d'œil en disant que Dina de Malchuta Dina. C'est-à-dire que si en France, au Congo, en Égypte, dans n'importe quel bled, ils ont des lois que si tu fais ça, t'es Chayav Mita, c'est le Derech Eretz de l'endroit. Par exemple, la charia peut être considérée comme étant le savoir-vivre de leur religion. C'est là. Le code de la route, c'est un Derech Eretz. C'est vraiment un jeu de mots là. Derech Eretz. C'est le chemin de la terre. Mais qu'est-ce qu'on appelle le Derech Eretz? Eh bien, le permis de conduire, le fait de connaître son code. En France, bientôt, il n'y aura plus besoin, puisqu'ils sont en train de voter une loi que tu peux conduire sans permis maintenant en France. Oui, ça va bientôt passer. Ils sont tellement fous, ils ne savent plus quoi faire de leur vie. Déjà qu'il y a tellement d'accidents, ils veulent donner ça maintenant à n'importe qui, il n'y a plus besoin d'avoir 18 ans, enfin un truc de fou. Tu peux aller en France, tu as le permis gratuit. Bekitso, Velaïnian, Aïnianou, que le savoir-vivre, eh bien, il est très spécifique. On va prendre un exemple concret. avant le dévoilement de la Torah. D'accord ? Avant le dévoilement de la Torah. Quel était le savoir-vivre sur Terre ? Je vais vous aider. Est-ce qu'une seule fois, avant le don de la Torah, parasha de Yitro, écoutez bien la question que je vous pose, elle est puissante et profonde, c'est un enseignement du Rav Kook. Est-ce qu'une seule fois, Dieu a détruit le monde parce qu'ils étaient idolâtres ? Nulle part. Pourquoi ? Je suis là. Vous savez que l'idolâtrie est interdite chez les goïms, comme pour les juifs. C'est une des sept lois noachim. Pourquoi est-ce que Dieu n'a-t-il pas détruit le monde alors qu'ils étaient tous ovdei avodah zara ? Hein ? Non, même avant Noir. Hanoch a été le premier à avoir... Enoch. Qui a instauré les premières avodah zara a été créé par Enoch, le soleil et la lune. Il a dit, Dieu est trop grand, on va commencer à servir ses serviteurs qu'on n'arrivait même pas à regarder. Donc il a instauré, la première idolatrie a été créée par Alpi Kabbalah Mamashlo. La première idolatrie a été créée par la faute originelle, c'est Ève. Ève et le serpent.
C'est les ours qui existent, qui étaient mauvaises. Pourquoi Dieu l'a
dit ? Regarde, deux secondes, regardez. Écoutez bien, c'est important. C'est important parce que c'est un enseignement qui est très rarement enseigné et qui est vrai. Et la Torah le démontre. C'est à cause de la débauche et du vol que le monde a été détruit dans le déluge. D'accord ? C'est à cause du fait qu'ils ont fait une tour de Babel pour lutter contre Dieu. Et qui s'était nommé Dieu à cette époque ? Nimrod. D'accord ? Ils n'ont pas été tués parce que Nimrod s'est proclamé Dieu. Ils n'ont pas été tués parce qu'ils ont défié Dieu. Ils ont été mélangés au niveau des cultures et des langages pour créer, pour diviser la pire des choses qui leur sont arrivées. On ne se rend même pas compte quand on lit ça de la gravité des choses. Parce qu'avant cet événement-là, chaque pays avait pour nom le premier homme qui s'y est installé. Pout, par exemple, ben c'était Pout. Mitzrayim s'appelait Mitzrayim. Nahon, Kenaan s'appelait Kenaan, exactement. Ça veut dire que le pays prenait le nom de celui qui s'y est installé, et donc qui était le peuple ? Sa propre descendance. Ce qu'on appelle Mishpechot Adama. Ce qui fait que, je donne un exemple, les Américains, si ça avait dit que c'était à l'époque, bon, c'est pot pourri, c'est à trois siècles, mais. Dans le constant, c'est par exemple la France, on va prendre la France par exemple, hein, okay, on va dire que France serait pas les Francs, France, ça c'est un exemple, okay, il serait installé là-bas. À l'origine, le pays était composé de la famille, mais pas d'étrangers, et ils parlaient leur langue à eux. C'est marqué avant que le Dora Plaga n'existe, avant la tour de Babel. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu ? Il a brisé cette valeur extraordinaire des familles de la terre pour les rendre cosmopolites. Et c'est là que tout s'est mélangé, ce qui fait qu'on ne sait plus qui est quoi et qui. Et donc, on arrêterait dans le désordre. C'est important de le comprendre. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'avant le savoir-vivre, c'était l'idolâtrie. C'est-à-dire, quelqu'un qui faisait de l'idolâtrie, il était dans un monde de savoir-vivre. C'était son savoir-vivre à lui. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que Moshe Rabbeinu, quand il y a eu la faute du veau d'or, il dit à Hachem, mais il faut qu'il change de savoir-vivre. Parce qu'il était culturel de prendre une statue et de... C'est-à-dire que pourquoi Avraham était le seul au monde ? Pourquoi Avraham a Ivri ? Parce qu'il était le seul au monde à dire « Faut arrêter ce savoir-vivre que vous avez. » Mais c'est extraordinaire, parce que si on en revient en arrière, ça veut dire que l'humanité, avant le dévoilement de la Torah de façon officielle, comprenait parfaitement qu'ils étaient des créatures créées par des créateurs, sans se tromper de créateurs. Vous comprenez la différence où elle est ? C'est vraiment extraordinaire, un mec qui sort une statue et il fait son repas, comme ça c'est marqué dans le Midrash Tanakhuma. Il a mangé chez Avraham Avinu, il a 100 ans le mec, il sort une statue, il dit « Je te remercie de m'avoir donné ce repas. » C'est quand même extraordinaire. C'est un savoir-vivre qui se trompe d'adresse. Comme ça, en tout cas, expliquait le Rav Kook. C'est pour cela que la tribu de Dan, ils ont traversé la mer avec des statues dans les poches. C'est un truc de fou. Ils ont du mal à quitter leur savoir-vivre. Pas l'exemple. Un exemple un peu bête. Hein. Un exemple qui vous concerne tous. Le bébé, quand il est, on le porte ou il se porte ? On le porte. On va lui apprendre un nouveau savoir-vivre. Lequel ? Il va marcher à quatre pattes. Normalement, il devrait marcher à quatre pattes. C'est son savoir-vivre à lui. Quand un bébé, il mange de la purée, il prend avec les mains, il le met dans la bouche. Vous avez déjà vu un bébé qui mange tout seul, d'un an et demi, quand il mange un yaourt au chocolat ? Il y en a autant sur son visage et sur ses habits que dans sa bouche. Ouais ? Et on se fâche ou on rigole ? On prend même des photos. Enfin, pour les gens normaux, je parle. Okay ? À part les Ashkenazim, vous vous dites « Oh !» Sur les photos aussi ? Ou c'est pas « Oh !» René, c'est Salim. Hein ? Non, mais pas à côté. Non, mais pas à côté. C'est pas mal. Ashkenazim, non, on ne peut pas prendre de photos, il n'est pas à côté chez nous, les enfants. Son savoir-vivre à l'enfant, c'est de faire dans la couche. C'est de manger à côté. Le savoir-vivre d'un enfant, C'est sa maladresse. Et est-ce qu'il fait bien les choses? Non. Il faut faire très attention à cela, car quand on parle à qui appartient le savoir-vivre, à Kadosh Baruch Hu juge les nations selon les lois qu'ils ont fixées dans leur savoir-vivre. Par exemple, prenons le cas de Sodome et Gomorre. Eux, ils ont été détruits. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de savoir-vivre? Si. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils avaient un savoir-vivre qui était hypocrite. Prenons ce que disent nos Chachamim, comme l'explique le Rav Moshe Yaakov Harlap, dans son livre Memarom, qui était d'ailleurs la Chavrutak du Rav Kook. Qu'est-ce qu'il écrit là-bas? Il dit que le problème fondamental des habitants de Sodome et Gomorre n'a rien à voir avec l'immoralité dont on parle. Bien sûr que c'était immoral. Bien sûr que c'est immoral. Mais c'est leur savoir-vivre à eux. Eux, ils disaient, notre savoir-vivre ici, on ne donne pas de tzedaka. Alors dans ce cas-là, prenons des exemples. À Miami, il est strictement interdit de demander de la tzedaka. Qui est passible de prison? Dubaï. Il n'y a pas une personne qui va te demander de la tzedaka. S'il te demande la tzedaka, c'est la prison. Est-ce qu'ils ont tort ou raison? C'est leur savoir-vivre à eux. On ne veut pas une mauvaise image de notre ville. On veut faire croire aux gens qu'ici, il y a que des gens qui réussissent. C'est stupide, mais c'est une loi. D'accord? J'avais vu une émission un jour d'un SDF, le pauvre de couleur noire, qui demandait qui tendait la main à un feu rouge. Deux flics l'arrêtent. Il dit, oui, je sais, je traverse les rues, la route. Elle m'a dit, vous voulez de l'aide? Donc, madame, il vous a demandé de l'aide? Vous lui avez proposé de l'aide? Ouais, enfin bon, feu vert. Il dit, si je te revois ici, on te met en prison. À Miami, deux flics. C'est un truc de fou. La loi dit, on ne demande pas, ta. Comme à Los Angeles, à partir de 17h30, les pauvres qui sont pas moins de 60 000 sortent de leur... je ne sais pas comment on appelle ça.
Leur ghetto.
C'est vraiment un ghetto. Donc pas le droit de se présenter pour que la ville respire l'hypocrisie de la richesse. Ah ben c'est faux. Alors quel est le problème? Rabbi Yaakov Moshe Harlap, il dit quelque chose de Nifla. Il dit que le problème, c'est qu'ils sont rentrés dans la justice de Dieu. Quelle a été l'erreur de Sodome et Gomorre, hormis l'immoralité sexuelle? Il dit tout simplement qu'ils sont rentrés dans les comptes divins. Et c'est ça que Dieu a exterminé chez eux. Écoute ce chidouche. Rabbi Yaakov Moshe Harlap, ce qu'il écrit. Il dit, Lama Kajouchou Ishmid et Taderecheret Shelem. Si là-bas, par exemple, la Médinoute, c'est on ne cède pas les uns les autres. On ne cède pas. On ne donne pas de tzedaka. C'est la loi. C'est leur Derecheret. Ils doivent fixer des lois. D'accord? Qui était le chef suprême de la Cour suprême là-bas? C'était Lot. Il a dit, nous, on doit fixer des lois. On fixe nos lois. Mabaya. Zav. Oh, Inyanou. C'est que la raison pour laquelle ils l'ont fait, c'est ce qui a fâché Dieu. Ils ont dit, étant donné que Dieu l'a rendu pauvre et qu'il n'a pas les moyens de manger, de quel droit, nous, les humains, on se mêle de la justice de Dieu et qu'on viendrait sortir du trou celui que Dieu a mis dans le trou? C'est ce qu'on appelle Mored de Malchut. Akadosh Baruch Hu leur a dit, ça par contre, c'est une faute qui est impardonnable. Parce que moi-même, qui suis Dieu, qui ai mis cet homme dans le pétrin, j'ai ordonné à l'homme de le sortir du pétrin. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, aussi midatadin be midatadin. Nous allons pratiquer la justice de Dieu dans notre propre justice en refusant le chesed de Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est abattu sur eux? Din minadin. La justice de la justice est abattue sur eux, d'où le fait que le sel donne du goût. C'est pour ça que le sel est tombé. Le sel donne du goût, ça veut dire quoi? Tu prends de la viande, il n'y a pas de sel, c'est fade. Il dit, quand je mets quelqu'un de façon fade dans la vie, je compte sur l'homme pour être son épice, lui donner du goût à la vie. Étant donné qu'ils ont dit, non, si tu as fait comme ça, nous on te laisse comme ça, on n'est pas là pour t'aider. On ne se mêle pas des plans divins. C'est-à-dire Dieu, le mec qui vient te voir, tu peux m'aider pour Shabbat? T'as pas de quoi faire Shabbat, je me mêle pas. Si Dieu t'a mis dans la galère, je me mêle pas. Dieu t'a envoyé pour que tu l'aides. Parce que le Beit Din d'en haut, il est obligé de le punir maintenant. Mais il dit, je m'inquiète pas, parce qu'il y a mon fils sur terre qui va l'aider. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous, on se mêle pas du Beit Din. Ils sont rentrés dans quel Derech Eretz? Celui d'Hachem. C'est pour ça que les marchavot d'Hachem ne sont pas nos marchavot à nous. Comme il a dit, Anilom Evin, mon cher Abenou, quand il a vu la souffrance de Rabbi Akiva au Har Sinaï, je ne comprends pas, c'est ça son salaire avec tout ce qu'il a fait? Ce qu'il lui a répondu? Shtok, qui karcha la marcha al fanaï. Tais-toi, il lui a dit. Ainsi est montée devant moi ma pensée. Ça se traduit par ainsi est mon derech reste dans le monde d'en haut. Parce qu'il y a des mondes supérieurs que tu ne connais pas encore. Il y a un système qui n'appartient pas à votre monde. Ce qui fait que le derech reste d'Hachem, ce n'est pas le derech reste de l'homme. Et c'est pour ça qu'on devient fou. Nous, on devient fou. Tu vois des gens qui font rien, ils réussissent dans tout. T'en as d'autres qui sont Torah mitzvot, qui se ruinent, qui font pour la Torah mitzvot, ils sont en bas. Dis-moi, pas de savoir vivre. À Derech Eretz Hashem, il est très dangereux. Il ne faut pas se mêler parce qu'il correspond à des tranches et des couloirs extrêmement puissants de Chochmot qui nous dépassent totalement, qui appartiennent à des Gilgulim du passé et de l'avenir, où seul Dieu en est le maître. Sur l'échiquier, lui, c'est exactement ce qu'il fait. Et tout est justice au millimètre du millimètre près, à un point tel que c'est impossible de comprendre. Pour nous, les humains, shtok, rentre pas là-dedans. Parce que le seul qui a pleuré quand Rabbi Akiva est mort, c'est Moshe Rabbeinu. Tandis que Rabbi Akiva, le jour où on l'a dépecé, il riait. De là, il lui dit, pourquoi tu as donné la Torah par moi ? Il expliquait, je crois que tu as le film de la Chotal sur les tagging. Comme ça, c'est marqué dans Torah de Kohanim, entre autres. Aval, le Derech Eretz d'Hachem, il est très différent du nôtre. Et là-bas, on ne peut pas mettre notre tête. Ce qui fait qu'il y a plusieurs sortes de Derech Eretz, d'où l'importance. On va le voir dans les commentaires maintenant de la Gemara. Tu vas voir, c'est impressionnant combien il y en a. Il y a le Derech Eretz de Dieu qui ne nous concerne pas. On ne sait pas pourquoi le Racha est devenu Racha, il va au Gan Eden. Celui-là, il est comme ça. On ne comprend rien. Le mec, il va avec toutes les meufs de la terre, toutes les filles de la terre, ok ? Ben Dorjia, il pleure 3 jours, il est mouzman et hayolam haba. Il meurt, il va directement invité au lamaba sans jugement. Alors je ne comprends pas. Mishkav Goya, Zera Levatala, Kola Verochevayam, Ben Dorjia, il est entre deux montagnes, il pleure 3 jours, hayolam haba. Oh ! Oh ! Rabbi, il s'est étonné de ça, Rabbi Yudanasi. Quoi, Yeshmich connaît Tolamo Bishahat ? En 1 heure, et il pleure 3 jours. Imagine, je te dis comme ça. Tu fais ce que tu veux, tu kiffes ta race, sans limite. Tu pleures 3 jours avant de mourir et tu es au lamaba directement sans jugement. Mais moi aussi, je veux. Tout le monde veut. Chas v'shalom, moi, je veux pas. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, il y a un piège. C'est que si en 3 jours, il est chokhalek au lamaba, c'est qu'il a un lamaba de 3 jours de travail. C'est un lamaba de 30 ans de travail. C'est un lamaba de 30 ans de travail. Aval ben au lamaba, aemet, c'est darga me'od, me'od gvoa. C'est pas. Ça n'a rien à voir. Faire très attention. Ben Aolamaba, c'est très différent de Yesh Lochelek Lolamaba. Yesh Lochelek Lolamaba, c'est l'otov. Ce qui peut être Chnenet Olamaba. Chelek. Ben Aolamaba, ça veut dire que ce monde est tafel pour toi et que toi tu vis dans l'autre. Tout l'autre, l'Olamaba, veut dire que tu appartiens à toi. À ta ben. Mais Zemdina, à ta. Quand tu es en France, tu as ta tout d'Azout. Zeperushadavar pour lequel Bemet Zerachou. Ça, c'est le premier Derech Eretz, c'est celui d'Hachem. Le deuxième Derech Eretz, c'est celui de l'humanité. Si vous regardez bien, dans ma Masechet Avodah Zara, y a Dieu qui propose sa Torah et chacun vient en disant qu'est-ce qui a marqué dedans, qu'est-ce qui a marqué dedans. Si vous regardez bien, les 7 lois noachid n'ont rien d'exceptionnel. Rien. À part l'otochal verminachai qui est des rabanan, c'est le seul qui est des rabanan, il y a 6 qui sont des Oraita et un des rabanan, comme le précise le Rambam, c'est ce qui fait la différence entre l'humain et l'animal. Tout simplement. C'est ce qui fait la différence entre l'humain et l'animal. Ce qui fait qu'il y a le savoir-vivre, et qui n'est pas des moindres, c'est le béabas, ce qu'on apprend en Kita Aleph. C'est le savoir-vivre de savoir dire bonjour, au revoir, merci. Est-ce que je ne vous dérange pas ? Est-ce que je peux ? Chose qu'on apprenait quand on était complètement chiloni, en France, ou n'importe où sur Terre. Quand on était enfant pour notre génération à nous, nos parents nous apprenaient, quand on rentrait aux enfants, à dire... T'as pas dit bonjour. Aujourd'hui, c'est mon fils, il dit ce qu'il veut. Abruti chez abruti. Il n'y a plus de Derech Eretz. Il n'y a plus rien.
Quand j'étais payé, je me rappelle, avec le premier, il y avait des leçons de morale à la fin.
Oui, bien sûr. Mais même les dessins animés, quand on était enfant, pour ceux qui ont plus de 50 ans, ils étaient tous morales. Moi, je me rappelle, à rue de Turenne, j'étais au 54 rue de Turenne, parce que je n'ai pas dépassé la CM2, je sais pas ce que c'est une 6e, très intéressant d'ailleurs. Même si j'ai fini prof, grâce à la Torah, c'est très curieux, un mec qui n'a jamais été à l'école, il est prof. On aura tout vu sur Terre. Et moi, je me rappelle qu'à la fin, ils nous mettaient des dessins animés. Bon, c'était naze avec, tu sais, le gros appareil gris comme ça sur le mur. Et bien, tous les dessins animés, je parle d'école non juive, hein, c'était de la morale. C'est Rémi qui devait apporter un paquet qu'il avait perdu. Il se remettait en question, il demandait pardon, il demandait combien ça coûtait, il voulait aller travailler pour. Mais des trucs de malade. On t'apprenait le savoir-vivre.
Des fables de la fontaine aussi.
Ouais, parce que toi, tu trouves qu'un corbeau avec un fromage sur une planche, sur une branche...
Le passage, je trouve
que le... Je donne un exemple. Je donne un exemple du savoir-vivre que nous, on a vécu, qu'il n'y a pas aujourd'hui. Mais il faut savoir une chose. Ça n'arrivait pas d'arriver en retard à l'école. On avait un mot des parents. Mince, tu vas arriver en retard. les parents prenaient un mot par respect pour le professeur. Moi, quand j'étais professeur dans le 13e arrondissement de Paris, je me rappelle, vendredi matin à l'école juive, au Tzara Torah, le gosse, il arrive en retard. Je lui dis, hey, dis-moi, c'est pas un moulin avant ici. Il m'a dit, tais-toi, c'est mon père qui te paye, toi. Je vous promets. Bon, j'ai renvoyé, hein. J'ai renvoyé l'enfant. Et j'ai convoqué les parents. Mais d'où il sort ça, l'enfant ? De la maison. De la maison. Mais avant, nous, on rentrait. Enfin, moi, j'ai connu l'époque, on était en blouse grise. Tout le monde pareil, il n'y avait pas de frime avec les pompes, les machins. On rentrait deux par deux, main dans la main. On rentrait deux par deux, main dans la main. La règle était devant, le stylo était là. C'était clair, il y avait une trousse. Tout était super. Avec, attention, quand t'entendais le mot, encore un mot, tu vas chez le directeur, on tremblait. Parce que les parents travaillaient en coordination avec les professeurs. C'était une superbe époque. Superbe. On avait du savoir-vivre. On n'osait pas répondre. Je vous rappelle un truc qui va peut-être vous choquer. Mais mon prof qui s'appelait Monsieur Bordeaux, une fois, je l'ai vu après l'école acheter une baguette. J'ai dit, ouais, il est comme nous, il mange du pain. Pour nous, un prof, c'était haut. Aujourd'hui, si tu ne mets pas un 20 sur 20, je te crève tes pneus, fils de machin et tout. Ça va pas, non, Chemichou. Bien sûr, on se levait. Il y avait même une époque, les gens se levaient quand le ravi rentrait. Il y a une époque. Aujourd'hui, c'est religieux. Ah, voleur, voleur, il ne fait pas l'armée. Voleur, voleur, voleur. Chemichou, voleur. Tu me parles de ça, moi j'ai rencontré un homme de 99 ans qui, le jour de son anniversaire, c'était au 120 boulevard de Belleville, il s'est mis à pleurer. Je lui ai dit pourquoi il pleurait. Il m'a raconté qu'à Oran, alors Oran ça se trouve en Algérie, Oran c'est juste à côté de Houtan, c'est la région à côté, Oran, Houtan. Et il me racontait comme ça qu'à Oran, quand le Dayan, moi j'écoute, le Dayan, il rentrait dans la rue, il me disait que tous les enfants, par respect pour lui, rentraient vite à la maison. Il disait, oh, il y a le Dayan qui arrive. C'était naturel chez les enfants d'avoir du respect. Alors, on ne va pas perdre trop de temps avec ça. On a compris qu'il y a un derrière regrets qui s'appelle tout simplement le savoir-vivre social. C'est le deuxième derrière regrets. Celui d'Hachem qui est hors de portée, il y a le nôtre. Et il y a un troisième derrière regrets. Et celui-là, c'est le plus débile. C'est celui qui pourra absolument être compris par personne d'autre que les Juifs. C'est celui dans lequel la Mishnah nous dit Derech Eretz Kadma la Torah, et qui continue avec Imen Torah en Derech Eretz. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de savoir-vivre. L'homistadère. Imen Torah en Derech Eretz. Par exemple, quelqu'un vient chercher à l'aéroport. Le savoir-vivre, normal et social, il n'y a pas besoin de Dieu pour ça, c'est que si toi, maintenant, qui est venu te chercher, il a besoin lui d'aller à l'aéroport, c'est de ramener. Et la Torah est mode makpida sur ça. Le mot toda, vous savez que ça ne veut pas dire merci. C'est une fausse traduction. Ça veut dire reconnaissance de dette. Le mot toda. Mishon le odot. Atamode, tu reconnais? Zet mishon toda. Thank you, ça ne veut rien dire. En hébreu, le mot merci n'existe pas. On l'a traduit comme ça pour se débarrasser de façon d'erheret universelle. Aval lonachon. Le mot toda vient du mot todé, qui veut dire est-ce que tu reconnais? Donc, chaque fois qu'on te rend service et que tu dis toda, tu viens de l'Itraïev, tu viens de te trouver dans une situation de savoir-vivre. Pour te donner un exemple, est-ce que j'ai le droit d'offrir un cadeau à un non-juif s'il m'a rendu service? Oui. Tachayav lo machu. Dougma. Ok. Maintenant, le mec dit, tu peux m'accompagner à l'aéroport? Betach, t'es venu me chercher. Shabbat. Samedi. Et le mec dit, samedi, pas du tout. Lama, samedi, je lis Bahia Mze. Lequel? C'est que c'est Shabbat. Et même Torah, un derrière. On te donne maintenant, comme c'est passé pour moi, quand je n'étais pas religieux, j'apportais des gâteaux à mon rave. Je voulais faire plaisir. À l'époque, c'était les francs. Et comme je ne sais pas quel gâteau il voulait, j'ai pris une grande boîte comme un imbécile. Et je lui ai pris de tous les gâteaux qu'il y avait dans la boulangerie. Attention, hein. Taref, la méadrine, mina méadrine. 100% à sourd de manger. Et donc, j'ai pris du flan, j'ai pris les éclairs, religieuses, Paris-Brest, tout. Une boîte comme ça, ça m'avait coûté à l'époque 250 francs. C'était d'oseille. Hein. J'étais jeune. 250 francs, c'était une journée de boulot bien, bien suée, tu vois. Et je lui ai apporté comme ça, et Rabbi Moshe Deri, je vous l'apporte, il lui dit, voilà. Et merci. C'est quoi? Ça, eh ben, c'est des gâteaux. Comme je ne savais pas lequel vous voulez, je vous ai tout pris. Ezet Sadik, Toda Rabba, Toda. Et il pose la boîte et moi j'attendais qu'il ouvre. Je voulais manger un gâteau, moi, à la base. Non, attends, t'es gentil, vas-y, ouvre. Comme par on fait un cadeau, tu ouvres. Et Rabbi Moshe Deri, il n'ouvre pas la boîte, il la laisse sur sa table. Il me regarde comme ça, il me dit, ça a dû vous coûter cher. Il dit à sa femme, vous voyez comment, Baruch HaShem, hein, vous voyez, Baruch HaShem. Bon, le temps passe. Bon, je m'en vais, je n'ai pas mangé de gâteau. Le temps passe et j'apprends, donc je vais acheter les lois, je ne sais pas, je connaissais pas qu'il y avait des lois juives, hein, je n'étais au courant de rien à l'époque. Et on me dit, ben voilà, va à Saint-Paul, ils sont tous saints chez eux, même les clous, hein, cinq clous, tous. Et je vais là-bas et je dis, vous avez des lois juives? Et le mec, qu'est-ce qu'il me donne? Je t'en supplie. Vous allez être contents tous les deux. Il me donne le Shulchan Aruch, moitié hébreu, moitié français, ashkenaz, où chaque faute, tu meurs. Chaque faute, tu meurs là-bas. C'est-à-dire, je t'ouvre le livre, t'as peur. Tu connais ce livre-là de Wells, je ne sais pas qui, hein? Tu fais pas ça, tu crèves. Tu fais pas ça, tu crèves. Tu fais pas ça. Et moi, je tombe sur ça maintenant. Je dis, Wally, il n'y a pas Michel, c'est pas grave. Très mahmir. Et j'arrive sur la cache-route. Et je vois là-bas que Bémet, il y a de la nourriture qui s'appelle kasher. Je ne connaissais pas ça. Je ne sais pas qu'il y a de la nourriture kasher, pas kasher. Léolam, l'eau chamati alzé. Je savais qu'il y avait la Magen David pour la viande, parce que ma mère n'achetait que de la viande kasher. Ça, oui. Mamash Zanizocher, c'est chez Lulu, ou la Villette, ou à Belleville. La viande était kasher. Mais à part ça, bon, le tampon, moi, je ne savais pas la qualité, vraiment la différence. À tel point que quand on commençait à manger kasher, on allait au McDonald's, on disait juste un fish. Chamichement. Et j'ai dit à Rabbi Moshe Deri, un an et demi plus tard, je m'excuse parce que j'ai réalisé, en étudiant un peu la Torah, que je vous ai apporté quelque chose que je n'avais pas le droit. Alors il me dit, de quoi tu parles? Il me dit, ce qui est plus important, c'est le geste. Tu as acheté une grande boîte de gâteaux. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous en avez fait, vous? Il m'a dit, j'ai tout donné à la concierge. Tout donné à la concierge. Je lui dis, mais il fallait me le dire. Il m'a dit, comment? Tu viens avec les bras ouverts? C'est derrière Eretz. Comme par exemple, on ne referme pas la porte sur le visage d'une personne. Je partais de chez lui, il attendait, moi j'attendais qu'il ferme pour me retourner. Il me fait, il faut que vous retourniez, vous savez. Il m'a dit, quand on monte les escaliers, devant une personne plus importante, quand on monte, on est derrière, de peur qu'il tombe. Quand tu descends, tu dois être devant. Pour la drich retourne. La drich retourne, c'est mina klal. Aval celui de la Torah, ou me otchone. Alors écoutez bien, je vous ai noté quelques petites références sympathiques. Rabbi Nechunia ben Akana Omer, Kol Amekabel Alav, Ol Torah, tout celui qui prend sur lui le savoir-vivre, l'étude de la Torah, écoutez bien, Not Nimno Alav, Ol, Slicha, Mimeno, Ol Torah, mais Not Nimno Alav, Ol Malchut, ve Ol Derech Eretz, Mimishpat, Zem Vakeshet, ve Olev, Shaila, Derech Eretz, Riouvi, Oshili. En d'autres termes, celui qui prend sur lui le joug de la Torah, Mavirim Alav, ça veut dire quoi? Tout ce qui est derech eretz, tel que c'est expliqué quoi? Les lois du pays, comme les impôts, comme d'aller ceci, comme d'aller cela. Celui qui étudie la Torah, ne'essa melarto alideh ahirim. Le travail sera fait par les autres. Ce qui fait que le derech eretz de la vie, c'est d'aller payer l'arnona, c'est d'aller payer les choses qu'on a payées, c'est d'aller faire les courses, faire ceci, faire cela. Mishé osek batorah, celui qui est dans l'étude de la Torah, makorelo, il est pachout, il ne sera pas tour du derech eretz. Ça veut dire que la vie sociale dans laquelle tu te trouves te rendra quitte. Comme quoi, par exemple, la Rebbe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu ne travailles pas, tu crèves. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Tu étudies la Torah, tu mangeras. Si tu fais ce que Dieu te demande, alors tu n'auras pas besoin du savoir-vivre, c'est-à-dire du derech eretz de ce monde. Chez Neymar, im en Torah, en derech eretz. Mashma mikan, que si, yesh Torah. À ce derech eretz, il existe ni mêlé de par lui-même, comme il explique ici. Deuxième explication, Rabbi Hanania ben Chachinai, Omer. Aner ba'laila ou mafne elibo, batala, derech eretz chiyuvi ou chavi le batala, zoi derech eretz shlili. Par exemple, il étudie la Torah, et il dit, oh, ma yafé nirze, ma yafé inanze, oh, comme c'est beau ceci et cela. D'accord? Ça s'appelle un derech eretz shlili, c'est-à-dire, tu viens de manquer de savoir-vivre. Pourtant, c'est pas grave. Par exemple, le Pele Yoetz, Rabbi Lézard Papo, il dit qu'il y a du gezel, du vol qu'on ne connaît pas. C'est le gezel limoud. Quelqu'un étudie la Torah. Tu viens le voir, tu l'interromps pour lui dire bonjour. Il explique là-bas que c'est chosser derech eretz. Et pourtant, de rentrer et dire bonjour, c'est une bonne chose. Il dit, vous savez, le problème, c'est que tu viens de voler maintenant du temps d'étude de la Torah. Et la chène, c'est l'eau derech eretz. Masé berabi Yehuda, shera akiri, vayam aler algabé, algabanar. Amroulo talmidav, rabbenu. Encore un point, il nous dit ici, malheureusement, il a eu une sortie de semences, comment on appelle ça, français. Il s'est rendu impur.
Une émission.
Et il lui a dit, donne-nous un cours sur le savoir-vivre. Qu'est-ce qu'il a répondu? D'abord, je vais au mikvé, je me rends pur. Vous savez que celui qui a une émission de semences la nuit, sans faire exprès par exemple, il se doit d'aller au mikvé impérativement le lendemain, et tikkun haklali be'ezrat Hashem zechut rabbeinu yigan alav, yachzor b'tshuva, faire les tachanunim, demander pardon à Dieu pour ça, parce que c'est pas venu stam. Si c'est venu quand même hors de sa conscience, c'est que quelque part, ou istakel davar shelo haya tzarich istakel, c'est qu'il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir, malgré tout. Ça ne veut pas dire qu'il a vu des choses interdites à proprement dire. La main, parce que le satan, il désarchive ce que tu vois. Donc des fois, fais attention. Et tu sais qu'il lui a répondu, tu veux savoir du savoir-vivre? Il a répondu, laisse-moi d'abord aller au mikvé, après je te dirai comment vivre le savoir-vivre. Mais ça, par exemple, est-ce que c'est universel? Non, ça n'appartient qu'aux juifs. Ça, c'est le savoir-vivre que la Gemara nous apprend sur Im en Torah en derech eretz, qui est très spécial. Arba tzrichim chizuk velu em Torah umasim tovim derech eretz chashuv mikula. Alors, quatre choses, nous dit la Gemara, a besoin de chizouk, qu'il faut constamment renforcer. La Torah, les bonnes actions, la prière, c'est marqué dans Brachot Lamedbet, et le savoir-vivre, le derech eretz. Tzrichim lechazek otam, im derech eretz yemet, nagut chiyuvit kalpe amikubal. Il dit ici que si le savoir-vivre, il est à la hauteur de ce que nous sommes, nous avons déjà toutes les bases pour le Kiddush Hashem. Qu'est-ce qui pourrait représenter le pire Chilul Hashem? Qu'est-ce qu'il y a des Chutzpah? Chutzpah. Des fois, il faut être Chutzpah. Par exemple, dans cette génération, on a marqué Chutzpah Yizgé. Ça monte. Aujourd'hui, par exemple, cette guerre qu'on entend à la Knesset entre le monde religieux au Khuldaï, comme je vous l'ai dit hier, le maire de Tel Aviv a signé avec Meretz l'interdiction de mettre des tefilines dans la rue. Une chose pareille est extrêmement grave. Extrêmement grave. Mais Bamé Darim Amourim, si la personne qui est, par exemple, aujourd'hui, un religieux qui étudie la Torah, il doit être Houtzpan. Je m'explique. Ça veut dire quoi? Il doit être Houtzpan. Vas-y, Houtzpan, Badorazé. Si tu n'es pas Houtzpan, tu ne peux pas traverser les affres de cette génération. Je vais expliquer de quoi je parle. Normalement, un Ben Torah, comment il doit marcher? La tête en bas, Anav, le cœur vers le ciel, effacé, transparent. Za Ben Torah Amiti. Dans cette génération, étant donné qu'on nous a éliminés avant même que l'on respire, il faut relever la tête et marcher avec fierté. Ata Houtzpan. Non, tu es Gava. Je l'ai Gava. Sois orgueilleux d'être religieux. Moi, je suis dans le vrai, les autres sont dans le mensonge. Moi, je tiens la vérité, eux ne le tiennent pas. Ah, je ne comprends pas. Il faut être houtzpan, il faut être culotté, il faut être effronté. Chouvaï, ken. Quand tu plonges dans une piscine, tu peux te permettre de faire de la brasse. Quand tu plonges dans un océan qui est rempli de vagues qui veut ta mort, tu as intérêt à faire du crawl. Perusha Davar a vite arrivé au rivage. Et le crawl, ça fait beaucoup d'éclaboussures. Ainsi donc, vous voyez, Yesh Poder Echeret, qui va exiger de chacun de nous, Bezrat Hashem, Maka Kasha, la Dorazé. Ça veut dire que le monde de la Torah aujourd'hui doit être Mamash Samer, Lolatim et Tachominatsad. Pourquoi? Parce qu'on ne doit jamais avoir honte d'être dans le monde de la vérité. Le monde a été créé pour la Torah, l'étude de la Torah, et contrairement à ce que pensent beaucoup d'ignorants, parce que c'est que l'ignorance, les pauvres, hein, c'est vraiment un esprit vide, rempli d'assimilation, c'est de croire que celui qui est assis en train d'étudier la Torah ne participe pas à l'État d'Israël, ne participe pas à la concrétisation de la protection du peuple d'Israël. Celui qui n'a pas compris ça est quelqu'un qui devrait peut-être faire des enquêtes sur son éducation toraïque. De tout temps et de toute heure, jusqu'à aujourd'hui, on va voir les plus grands sages tous ces gens qui sont partis voir le Rabbi. Je rappelle que le Rabbi n'a jamais fait l'armée, encore vous ne le savez pas, et qu'il étudiait la Torah le jour et la nuit. Donc, Ken, Ze, Mitkina, Derech Eretz. Les famines, il faut renverser le Derech Eretz pour soulever la Torah. Pashut. Pashut, Meod, Meod. Que Dieu protège nos soldats, tout ce que vous voulez, mais n'oublions pas qu'il y a aussi une autre forme de soldats, ce sont ceux qui sont assis en train d'étudier la Torah. Et si vous dites qu'ils risquent leur vie ou pas leur vie, c'est un sujet qui est complètement différent, car même celui qui va à l'armée risque sa vie, et celui qui étudie la Torah aujourd'hui de nos jours n'a pas de vie. C'est-à-dire, avec du pain, du beurre, dans des situations extrêmement précaires et difficiles, pour ceux qui ne le savent pas, allez vous asseoir, vous, 10 heures d'affilée pour 700 shekels par mois, ou 1000 shekels par mois, avec 10 enfants à la maison, avec jamais de vacances et une glace à l'eau tous les 10 ans. Allez vous mesurer à ça, après vous parlerez. Il n'y a que celui qui sait ce qu'est vraiment la Torah qui peut se permettre de parler. Et effectivement, on peut constater qu'il n'y a que ceux qui n'étudient pas qui se permettent de se la ramener. Enfin bon, c'est encore un autre sujet. Quel manque de savoir-vivre. Un bourreau à voter nous, on finira avec celui-là, on est Rachouv Hamishim. Alors voilà, ce que je voulais te dire, c'est que dans le monde de la Torah, ce qui peut provoquer le plus grand Chiloul Hashem, c'est justement cette itnagout chez Enla Derech Eretz. Et là, j'aimerais être très clair. Tu dois avoir du savoir-vivre vis-à-vis d'Hachem, mais tu dois aussi avoir du savoir-vivre vis-à-vis de Dieu. Je vais donner un exemple, bête, stupide, mais moi qui me parle. Ça m'est arrivé à maintes reprises, et je sais que je vais peut-être fâcher des gens, mais c'est pas grave, d'avoir honte. Moi, j'ai honte. J'ai honte. Eux le font avec effronterie et avec sincérité, mais moi ça me dérange. Quand je roule sur l'autoroute et que je vois des très grands panneaux comme ça avec la photo d'un des plus grands maîtres de la Torah que personnellement à Faragla Vanochi que j'apprécie particulièrement au niveau de l'étude, le Rabbi de Lubavitch, veuillez accueillir le Melech HaMashiach. Où est-ce que c'est marqué qu'il faut faire ça? Moi je serais pas religieux, je trouve ça complètement débile. La personne n'est pas présente. Allô Mévin, pourquoi tu fais ça? C'est quoi le but? D'imposer aux autres quelque chose? Ou l'homme à chair pour moi, c'est un des plus grands maîtres du judaïsme, plus grand que Moshe Rabbeinu, si tu veux, dans cette génération. Tout ce que tu veux. Ces livres sont hors du commun, je ne le sens recevoir à personne sur le monde Lubavitch. Je suis ami avec eux et je les aime. Pour moi, ce genre de choses, c'est l'homme de Kabel. C'est pas intelligent. C'est presque un Chiloul Hashem aux yeux des autres. Quand je suis dans le bus, je me rappelle à Jérusalem et que je vois un religieux avec des péotes qui... Excusez-moi, Zemagiloti. Zelo Derecheret. Et ça, par contre, ça peut être quelque chose d'extrêmement grave. D'extrêmement grave. Si tu représentes la Torah, tu dois être au summum de l'exemple, qu'elle soit extérieure comme intérieure. T'as envie de cracher dans tes mains pour te mettre de la baffe dans tes péotes? Va faire ça chez toi, c'est Magil. Ata Magil aussi. Zelo Yafé. C'est pas du savoir-vivre. Zelo Yafé. Comme par exemple, je vous donne un exemple bête et stupide. On a tous des problèmes physiques qui appartiennent à un système humain. On a tous des crottes dans le nez, on a tous ceci et cela. Vous imaginez que, tu imagines comme ça ton rave, tu rentres au bureau, il a le doigt dans le nez, il cherche Robert. Et après tu dis, comment tu vas, Moshe? Bon. Et l'autre, il va faire. Prends un mouchoir, fais quelque chose, mets-toi de côté. T'as cette chelcha. T'as cette chelcha. Lechen, ceux qui doivent avoir ce grand Derech Eretz, pour répondre à ta question, le Derech Eretz, il appartient à une culture du pays. J'ai vu les Éthiopiens, comment ils dansent, nos frères éthiopiens. C'est extraordinaire. Taraïta, pas un Éthiopien. Abim, Yehuda. Taraïta, Éthiopien. Zera qui m'a... Moi, j'étais à un mariage, avec que des Éthiopiens. Ils dansent. C'est les épaules qui montent constamment. Nous, c'est les jambes qui montent. C'est leur culture. Chacun, sa façon d'être. Derretz, shel kol medina mudina, ki dina de malchuta. Aval tant que... Mon Derech Eretz ne dérange personne et qu'il plaît aux yeux d'Hachem parce qu'il est sur le chemin de la droiture et de la rectitude, n'oubliez jamais ce que je vais vous dire. On s'inquiète souvent pour les misotes qu'on n'a pas fait. On ferait d'abord un peu plus lieu de faire attention au savoir-vivre qu'on se doit d'avoir les uns avec les autres. Parce qu'un des pires savoir-vivre qui existe sur Terre, un des pires manques de savoir-vivre, c'est le Lashon Hara. Quand on a posé la question à Masechet Shabbat, la Medalef, à Hillel Azaken. On lui a dit, apprends-moi la Torah sur un pied. Un coup de pour ce qui vient, lui dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. T'aimerais qu'on parle derrière ton dos? C'est comme les conflits d'argent. Ouais, il me doit, je lui dois, je lui dois, il me doit. Tu sais comment tu peux régler ça? Mets-toi à sa place. Et t'arrives à Nibshara. D'un côté, il a des frais. De l'autre côté, d'accord ? La Gemara prend un exemple, je finirai avec ça. Une femme commande une robe. Comme ça, elle raconte la Gemara, elle commande une robe. La toferette, la couturière, elle a cousu la robe. Toute la nuit, elle a travaillé. C'est pas du tout ce qu'a demandé la femme, la cliente. Elle n'a pas du tout demandé ça. Elle lui a montré le croquis, ça n'a rien à voir. Comment la Torah veut régler ce problème de l'énuma monote ? La Gemara nous dit, sur la robe, elle ne paye pas l'ama. Elle lui a dit ce qu'elle voulait, elle n'a pas fait. Aval sur le fait qu'elle ait travaillé toute la nuit, certes les chalets. Aval yavda. Qu'est-ce qu'elle te dit, elle ? Mais moi, j'ai travaillé quand même toute la nuit, je n'ai pas dormi. La Torah, elle te dit, nachon. Sur la robe elle-même, le shalem. La robe, elle coûtait, je dis n'importe quoi, 1000 shekels. Le shalem, c'est le machin héros. C'est pourquoi tu veux que j'achète une robe alors que je ne sais pas, que je ne t'ai pas expliqué. Tu as signé, je t'ai montré, rien à voir. Tu m'as mis des poches, je ne t'en ai pas demandé. Tu m'as mis de la dentelle, je ne t'ai pas demandé. C'est ça. Alzé, chez Avda, Kolalaïla, la Gemara nous dit, Azé, tu seras le fatsot. Moi, ta collègue, elle travaille. Lama, parce que si toi, tu avais été à sa place. Alors, tu es étonné. Pourquoi c'est pas logique? L'homme est chané, Yavda. Azalzen et Emma. Regarde, toi tu es dans Derech Eretz Kadma la Torah. Moi je suis Imen Torah et Derech Eretz. La Torah elle vient, elle te dit malgré tout Yavda Balayla.
Moi j'ai payé, j'ai pas la robe, j'ai rien. Que tout, que tout. Il a raison. T'as payé, t'as pas la robe,
t'arrêtes. Avali Yavda Alze.
Et en plus t'as même plus le temps d'aller trouver une autre robe.
Avda Alze. D'accord, Avali Yavda Alze. L'amour t'a col.
Et après c'est pas du guidage de mon côté, moi j'ai rien vu.
Alors justement, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il y a un Derech Eretz qui appartient à Hachem. Les plus grands sages du Talmud se sont élevés au-dessus de tous parce que justement, ils ont agi comme ça. Par exemple, pour les quelques proutotes que tu vas lui donner parce qu'elle a travaillé la nuit, sache que dans le ciel, t'es kabel, pi mea bashana mima shenatatala. D'un coup, ils veulent tous payer. Ça vous plaît, là? Hein? Bon, les filles à halakha, c'est gamma halakha le maase ou c'est zaragmara? Rav Yaron. Isha izmina simla. Ivia chose, maïrotsa bidjouk, tahara, malo, mima, usmola, mashi kibla, bichla, lokashur. Achav, a toferet avda kola leila. Ma omeret ala chabano saze? Ala avoda, ma y meshalemet ou lo meshalemet? Le fia ala chani midaber. Ah, c'est où? Les filles à l'achat, il dit, elle ne paie pas. Gam avoda le meshalemet? Azama, gmara omeret sheken yeshinyan. Zazani midaber, al schar ticha.
Ah.
Bessé d'agrément. La l'achat, elle fait rien, comme vous avez dit. Alakha, elle paye pas non plus le travail qui a été fait. Il y a une différence entre la Gemara et la Alakha. Alakha, mikar taout, lo meshalem. Baruch Adonai le olam, amen va amen. Rabbi Hananiah ben Hakasham.